Claude Askolovitch, des terroristes français ce matin.
Qui venaient de Toulouse et sont morts en Syrie en février dernier, mais dont les fantômes font encore peur à Raqqa, où entre 2014 et 2016, ils étaient des notables de l'État islamique. Ils ont été pour nous les messagers de la mort. Nous parlons des frères Klein, Fabien et Jean-Michel, qui revendiquaient pour Daesh les attentats de novembre 2015. Les frères Klein que la Dépêche du Midi ranime dans un reportage à lire absolument sur la banalité du mal. Deux journalistes, Céline Martelet et Edith Bouvier, ont retrouvé à Raqqa l'appartement où vivait Jean-Michel Klein avec sa femme et ses 6 enfants. Un appartement cossu qui avait appartenu à un pédiatre au 4e étage d'un immeuble de standing, ascenseur et faux marbre, canapé de tissu, écran plat au salon, baignoire à jet et balcon. Et c'est dans ce confort bourgeois au cœur de Raqqa que Jean-Michel Klein se reposait de son travail de bureaucrate de la terreur. Les frères Klein avaient leur bureau en ville à l'arrière d'une parfumerie. C'est là, se souviennent des habitants, que se retrouvaient les djihadistes étrangers. Dans cette pièce, on trouve de grands sacs de plastique blanc que personne n'avait osé ouvrir depuis la libération de la ville. Ils abritent les archives de ce qui fut une administration de Daesh, son bureau des combattants où l'on venait chercher de l'argent ou des ordres de mission. Les journalistes ont ouvert ces sacs. Elles ont trouvé des cartes plastifiées, les laissez-passer qui autorisaient le porteur à voyager sur tout le territoire du califat, et puis un grand cahier rouge, la comptabilité du djihad, où les dépenses étaient soigneusement notées, nom, nationalité, somme, utilisation. Abou Othman Al-Francisi, Jean-Michel Klein avait reçu un jour 5 000 $ pour des frais de mission. On verra ce cahier rouge dans la dépêche à lire absolument, comme on regarde parfois les archives d'autres terreurs venues de l'histoire. Mais cette terreur qui marquait Raqqa est toute proche. Et le docteur Essam, dont Jean-Michel Klein occupait l'appartement, ne veut plus jamais revenir chez lui, terrifié à l'idée qu'il pourrait revenir. Les journaux nationaux font écho au scoop de nos consoeurs dans la dépêche en parlant d'une autre terreur, la même islamiste mais ailleurs, qui sévit en Afrique et entre Bénin et Burkina Faso, a tué un guide et ses 2 soldats auxquels la nation rend hommage ce matin. Le Figaro, le Parisien et l'Opinion nous disent nos difficultés en Afrique où la France se bat. 4500 soldats pour tenir 5 millions de kilomètres carrés. Barkhane, cette opération impossible, lige dans le Parisien. 17 soldats sont morts déjà. Libération parle du tourisme en zone dangereuse. C'est un point de vue de civil, mais c'est un autre article qu'il faut lire dans ce journal. Libération qui nous réveille des horreurs plus anciennes. On vient d'enterrer à Berlin une petite boîte en bois marron clair qui contenait 300 fragments d'êtres humains. 300 tissus humains posés sur des lamelles de laboratoire retrouvés 3/4 siècle après un crime. Ce qui restait de résistants anti-nazis, hommes et femmes, que le docteur Hermann Stiefe, directeur de l'Institut universitaire d'anatomie de Berlin, disséquait aussitôt après leur exécution sous les nazis au nom de leur science.
Le micro pour Alexandra, s'il vous plaît. Voilà, Claude.
Merci. Claude, dans la presse aussi ce matin, un autre mal, c'est le trafic de cocaïne en Guyane.
Un mal d'une grande banalité sur les rives du Maroni, ce fleuve qui sépare notre Guyane française du Suriname. Et le Monde raconte donc à hauteur d'hommes et de misère des aventures poisseuses. Elles naissent à Albina, au Suriname, où les pains de cocaïne venus de Colombie et coupés de pesticides sont à peine dissimulés derrière les pastèques d'une marchande des légumes. Alors, traversant le fleuve, des Français pauvres viennent en prendre livraison. On avait les boulettes, on tente de les transporter dans des valises, on repart en pirogue et l'on prend l'avion pour Paris, après être passé par un rituel venu d'Afrique, dont la magie rendrait invisible aux yeux des lois des douaniers ceux et celles qui, dit-on sur le fleuve, ont pris le chemin. C'est du grand reportage sans aucune esbrouffe dans une misère caraïbe. Mediapart, autre grand reportage, raconte des enfants qui, à Tanger au Maroc, découpent les bâches des camions pour aller vers l'Europe et les scotchent ensuite à la colle des colliers pour que le bruit de la bâche qui bat ne les trahisse pas. Au Maroc encore, mais de meilleures sociétés. Mediapart parle du roi Mohamed VI qui sera intervenu auprès de l'émir du Qatar pour qu'il finance une section judo dans son club du Paris Saint-Germain, ceci afin d'accueillir à 40 000 euros par mois notre champion Teddy Riner, alors en mal d'employeur et qui est l'ami du souverain M6. Dans la Voix du Nord, le témoignage d'une jeune femme venue de Guinée-Conakry. Elle est chrétienne, son compagnon musulman, et pour cela, ils ont dû fuir leur famille. Ils vivent à Lille, dans un grand squat où parfois le soir, on se bat au couteau. Elle est enceinte, elle a 20 ans. Elle est dans un journal qui fait sa une sur une passion innocente, le vélo, car les 4 jours de Dunkerque commencent. C'est une tradition sans cesse renouvelée. La vie est aussi faite de cela. À Montpellier, d'autres cyclistes, me dit Midi Libre, s'associent pour monter leur boîte de coursiers et contactent des restaurants pour échapper aux joues de Uber et de Deliveroo. La même pulsion de liberté, plus simple chez nous. Il suffit de pédaler.
Cannes, pour finir.
Qui revient comme un rituel de printemps et est inauguré d'une interview de son patron Thierry Frémaux dans le Figaro, d'une interview de Jim Jarmusch sur les zombies dans le monde et d'une interview sublime d'Alain Delon que le festival honore dans Nice Matin. Une pétition venue d'Amérique demande que Cannes ne célèbre pas Delon qui serait raciste, homophobe et misogyne. On peut ce matin soupirer.
Merci Claude Ascolovitch.